entreprise pour que tu puisses t'intégrer rapidement au marché du travail. Toutes les entreprises ont besoin de spécialistes en RH. N'attends pas. Détails au progresseez.ca.
Grande vente de liquidation chez Roulotte Turmel. Profitez de rabais sur plusieurs de nos modèles 2022-2023 et possibilité de 3 mois sans paiement ni intérêt. Courez la chance de gagner votre achat et surtout vivez le rêve en famille et profitez de l'été. Roulotte Turmel à Château-Richer, roulottesurmel.com.
C'est la plus grande liquidation de l'année chez Sale. Obtenez jusqu'à 70 % de rabais sur une vaste sélection de produits. Vous trouverez les meilleurs rabais sur des milliers d'articles de plein air. Soyez équipés été comme hiver avec Sale. Sale, votre destination plein air 100% québécoise.
Mais regardez-moi donc la vedette chez IGA.
Bon, vous m'avez reconnu. Normalement, je donne pas d'autographe, mais...
Non, c'est que...
Non, faites pas votre gêne.
Non, vraiment, j'ai aucune idée qui vous êtes. Mais les produits du Québec dans votre panier, ça, c'est des vraies vedettes.
Jusqu'au 30 août, le Québec est en vedette chez IGA. À l'achat de 2 paniers de légumes de récolte de 1,5 litres, obtenez 500 points 5 plus. 500 points, c'est 5 $ d'épicerie gratuite chez IGA.
Ça va récolter des prix.
5 plus chez IGA. Détails dans les magasins de participants.
Boulevard. Bonsoir, Québec, à la concierge.
C'est bien connu, Québec, Rock City.
Love you, love you, love you.
On est une ville de rock. Boulevard 102, sur les plaines, au centre Vidéotron ou dans votre char. Quand ça se passe à Québec, ça se passe à Boulevard 102.1.
Boulevard
102.1. Votre partner de show. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer une excellente soirée ensemble, du moins un bon moment, un bon 60 minutes, puisque ce soir, j'ai la chance d'avoir le docteur en neurosciences, Joël Monzé, qui est dans l'ouest du Canada. Là, je croyais qu'il était juste à côté de nous, là, qu'il avait à peu près la même température que nous, mais finalement, Joël est dans l'ouest du Canada pour affaires, puis il a été assez gentil pour nous accorder une entrevue pendant 60 minutes. Salut, Joël!
Salut!
Très content de t'avoir avec moi. Concrètement, là, pour les auditeurs, les gens qui t'entendent pour une première fois sur les ondes de Boulevard, c'est quoi un docteur en neurosciences?
En fait, un docteur en neurosciences, c'est quelqu'un qui essaie de mieux comprendre comment fonctionne le cerveau. Alors, il y a différentes matières. Ça peut aller de l'intelligence artificielle à la réadaptation physique, en passant par tout ce qui est neurologique et les problèmes neurologiques qu'on peut avoir. Moi, je suis plus dans le domaine de la psychologie, de la pédagogie, de la psychiatrie, où j'essaie de voir justement comment fonctionnent nos émotions, de quelle manière les liens entre le cognitif et les émotions et comment est-ce qu'on peut appliquer ça éventuellement dans nos écoles, comment est-ce qu'on peut aider nos élèves à mieux réussir à l'école et comment est-ce qu'on peut aider nos professeurs et les parents à mieux accompagner les enfants et les adolescents.
Actuellement, tu es dans l'Ouest canadien. Tu es où précisément?
En fait, je suis à Peace River présentement, à environ 500 km au nord d'Edmonton. En fait, j'accompagne des écoles dans Alberta. Il y a des communautés francophones ici en Alberta, ouais, qui ont le droit d'avoir des écoles françaises, francophones. Et donc, j'accompagne des communautés à justement mieux comprendre comment fonctionnent leurs élèves, comment est-ce qu'eux peuvent éventuellement développer des outils. Parce que, c'est quelque part, les francophones qui vivent à Calgary ou Edmonton, ils peuvent avoir des services en français parce qu'il y a une masse de population suffisamment grande. Mais dès qu'on est dans les régions, c'est certain que l'accès à quelqu'un qui peut aider en psychologie, en travail social, ou même parfois même en psychiatrie ou en médecine, l'avoir en français, c'est difficile. Donc, mon objectif, en fait, avec le projet sur lequel je travaille, c'est vraiment d'aider les communautés à disposer de plus d'autonomie possible. C'est un très, très, très beau projet qui me motive beaucoup et qui va me prendre encore quelques années. Donc, c'est vraiment agréable.
Ouais, tu es français d'origine, tu t'es établi au Québec. Est-ce que tu constates qu'il y a une différence entre l'Ouest canadien et le Québec pour ce qui est d'enseigner aux enfants? Y a-t-il des façons différentes ou c'est à peu près toujours la même chose, peu importe que ce soit le Québec ou les autres provinces du Canada?
Mais tu sais, je me référerais à une étude qui avait été faite par les anglophones il y a quelques années parce qu'ils s'étonnaient que ça fait 20 ans que les Québécois gagnent tous les concours de mathématiques quand on fait des concours pan-canadiens. Et ils se sont rendus compte, en fait, pour essayer de comprendre justement cette différence entre le ROC, donc le reste du Canada, et le Québec, c'est qu'au Québec, on est très centré sur les tâches à faire, indépendamment de l'émotion et du rythme de l'élève. Alors qu'ici, dans le reste du Canada, on est beaucoup plus proche, en fait, d'un respect du rythme de l'élève et de ses facultés de développement. Donc, je te dirais que oui, l'Alberta s'inspire de beaucoup de pédagogues québécois, parce que ça reste que le Québec a développé des très, très, très belles avancées, hein, d'un point de vue pédagogique, mais ils restent peut-être beaucoup plus connectés, en fait, à ce qu'est un enfant, et ils veulent pouvoir l'accompagner au mieux dans son développement en tant que tel. On est moins dans un formatage, tu sais, quelque part, si je veux devenir un champion olympique, j'ai besoin qu'on me formate. J'ai besoin que on puisse me dire exactement quels sont mes petits défauts et qu'on me donne les entraînements dont j'ai besoin parce que je veux devenir un champion olympique. Le problème, c'est que quand on est trop centré sur le côté très théorique des choses, on risque peut-être malheureusement de ne plus être connecté en fait à la réalité des enfants d'aujourd'hui. Et je crois que c'est un des problèmes que l'on observe au Québec quand on constate les dernières études. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé auparavant, Yannick, mais on sait que 17 à 22% des enfants au Québec ont été diagnostiqué avec un TDA ou un TDAH, d'accord? Pour moi, la définition du trouble comment dire, de l'hyperactivité, le trouble du déficit de l'attention, est liée soi-disant à un problème génétique qui fait en sorte que le cerveau ne se développe pas de manière tout à fait adaptée. On peut s'attendre à ce que quelques pourcents de la population soient atteintes par ce trouble-là, mais quand on en est rendu à 17 à 22%, c'est que c'est un problème d'évaluation, c'est que c'est un problème d'incohérence dans notre manière de comprendre les enfants surtout. Ça ne veut pas dire que les adultes sont méchants. Je pense que les adultes veulent vraiment le bien des enfants, mais c'est comme si on avait perdu le contact avec la réalité biologique et la réalité sociale d'un enfant. Et de là, il y a plein de distracteurs, comme les écrans notamment, et les fameux téléphones dont on parle beaucoup depuis quelques jours dans les différents organes de presse.
Ouais. Mais tu sais, toi, tu as les mains directement dedans, là, tu sais, puis tu regardes les recettes et tout ça, mais de l'autre côté, tu sais, les statistiques disent qu'au Canada, c'est au Québec où il y a le plus d'enfants TDAH, avec une forte proportion. Tu as dit que c'était génétique. Moi, j'avais l'impression que c'était avec l'arrivée, je sais pas moi, des écrans, le fait que la vie va beaucoup plus vite qu'avant, que les enfants sont surstimulés avec les écrans, les ordinateurs et tout ça. J'avais l'impression que c'était ça qui faisait en sorte que les enfants étaient comme un peu mélangés. Mais toi, génétique, ça veut dire que c'est de naissance, là.
Mais en fait, ça dépend toujours c'est quoi qui est génétique et c'est quoi qui ne l'est pas. C'est certain que la définition du TDAH, si tu écoutes par exemple Annick Vincent qui a écrit Mon cerveau a besoin de lunettes, elle ne définit le TDAH qu'uniquement avec une problématique génétique. D'accord? Et à ce moment-là, elle dit, ben, c'est parce qu'on en a plus au Québec, parce qu'on est capable de mieux les évaluer. Mais de nouveau, on peut avoir des difficultés génétiques ou d'origine génétique, c'est un fait. Mais quand on se retrouve avec presque un quart de la population, on n'est plus dans un problème génétique, on est dans une différence ou dans une mécompréhension d'un phénomène. Alors, qu'est-ce qui amène un enfant à se comporter comme s'il était TDAH? Donc, il y a des vrais TDA et TDAH. Je n'en doute pas une seule seconde. Il y a des enfants qui vont poursuivre à l'âge adulte, mais beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont diagnostiqués sur une apparence de TDA et TDAH, mais pas sur un vrai TDA ou un TDAH.
Est-ce qu'on va être capable de faire marche arrière et de faire baisser ces statistiques-là à un moment donné en écoutant des chercheurs comme toi, des docteurs en neurosciences? Est-ce qu'on va réussir peut-être à mettre le doigt sur le bobo puis peut-être dire aux gens qui sont responsables de détecter le TDAH, ben, il y a peut-être une façon de faire qui serait peut-être mieux que celle qu'on a là avant? Comment tu vois le futur, Joël?
Ben écoute, moi j'aurais envie de te dire, tu sais, cette semaine, on vient de commencer à vraiment vouloir bannir le téléphone dans nos classes. Okay? Moi, ça fait plus de 15 ans que je milite. J'ai travaillé avec Lionel Carman, le ministre des Services sociaux, à la préparation et à la création de la première politique face aux écrans. Donc, c'est un sujet qui me touche beaucoup, mais ça fait plus de 15 ans que je signale qu'il y a un problème par rapport à ça. Ça fait plus de 15 ans que je fais des entrevues par rapport à ça. Donc, ça prend du temps pour que la conscience sociale s'installe et que une idée qui peut être bonne au départ, interdire le cellulaire dans nos classes, ça prend du temps pour que la société soit prête à ça éventuellement, et que les parents retrouvent et les enseignants retrouvent suffisamment de volonté pour pouvoir changer une habitude qui, au départ, pouvait peut-être ne pas être une mauvaise idée. Avoir un téléphone, ce n'est pas une mauvaise idée, mais qui est devenue malheureusement problématique. Alors, si on vient par rapport à la quantité de jeunes qui sont TDA ou diagnostiqués TDA ou TDAH ici au Québec, j'aurais envie de dire que la première institution qui devrait faire en fait son travail, c'est l'INES, l'Institut national de l'excellence en santé et en services sociaux, qui n'a pas renouvelé en fait ses normes depuis 2001. Malgré une commission parlementaire que j'avais déclenchée avec trois collègues pédiatres en 2019, où on avait révélé les données les plus récentes en termes de consommation de psychotropes, on sait que, par exemple, en 5e et 6e année primaire, 15 % de nos élèves sont sous psychostimulants, ce qui est aberrant. On est 4, 5, 6 fois plus élevé qu'ailleurs dans le Canada. Et on est 10-15 fois plus élevé que dans la plupart des pays européens. Donc, on a un réflexe de croire que l'enfant qui est distrait, que l'enfant qui est agité, que l'enfant qui ne rencontre pas éventuellement les attentes scolaires ou les attentes parentales, c'est nécessairement parce que le problème est d'origine neurologique, alors que bien souvent, c'est une question d'intérêt, c'est une question de mobilisation, c'est une question d'absence de limites, c'est une difficulté à socialiser, c'est une conséquence de l'abus qu'ils ont vécu éventuellement parce que malheureusement certains adultes peuvent avoir des comportements problématiques mais aussi de l'intimidation. C'est une conséquence du stress des parents. Écoute, actuellement, la charge mentale que les parents vivent, elle est terrible. Et donc, à ce moment-là, comme ils sont pris par une charge mentale énorme, de devoir mettre des limites à leurs enfants, c'est hyper compliqué, c'est hyper demandant. Donc, j'en veux pas aux parents, je constate. Puis à partir de là, on fait des constats. Et on dit, comment est-ce qu'on peut inverser le processus?
Il y a beaucoup de pressions qui proviennent des écoles. Bon, les enseignants disent, écoutez, monsieur, madame, votre enfant est très turbulent. J'en ai eu des enfants pendant des années et des années en classe. Puis il y a des enfants au travers de ça qui étaient TDAH. Et je considère que votre enfant pourrait peut-être avoir des problématiques. Là, l'école s'en mêle, la direction. Il y a des experts qui sont à même l'école qui s'en mêlent aussi. Met de la pression sur le parent. Le parent s'en va vous rencontrer le médecin avec son enfant. Le parent ne sait plus quoi faire parce qu'il veut que son enfant soit considéré au même titre que les autres et puisse continuer d'apprendre. Il ne veut pas que son enfant se fasse retirer de l'école. Le médecin a ça devant lui. Il a des étapes à faire. Puis là, il dit, OK, on va essayer cette molécule-là. Puis si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on essayera un autre. Puis il y a le régime d'assurance aussi qu'on a au Québec pour ce qui est des médicaments là, qui facilite le tout. Là. Ça fait en sorte que ce n'est pas cher d'avoir ce type de médicaments-là. Est-ce que tout ça ne serait pas à revoir? De la base, oui. Là.
Oui, complètement. Puis il y a des choses quand même qui bougent. Tu vois, je te dirais, un des premiers éléments qui était vraiment important et ça a été mis en place par Jean-François Roberge à l'époque où il était ministre de l'Éducation, c'est que on a travaillé là-dessus pendant la pandémie, c'est qu'on n'attache plus les services à l'élève en fonction d'un diagnostic ou d'une cote, mais on attache en fonction des besoins. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'école dispose de l'argent en conséquence, d'accord? Par exemple, mettons que comme direction d'école, j'aurais besoin de 5 TES, d'un travailleur social, d'un psychologue scolaire, je vais devoir faire peut-être des choix si je peux engager uniquement 3 personnes, d'accord? Puis en plus, on a une pénurie de personnel, ce qui peut aussi compliquer les choses. Donc, c'est certain que le fait d'avoir détaché les services à l'élève d'un diagnostic, ça va probablement déjà beaucoup aider. Le dernier point qui reste en fait à modifier, c'est avec le renouvellement de la convention collective où les professeurs, quand ils ont des élèves qui sont en difficulté, eh bien, ils ont des adaptations dans leur plage horaire pour pouvoir se préparer à accompagner les élèves. Donc, quelque part, s'ils ont une classe avec 5-6 élèves qui sont en difficulté, d'accord, ils ont peut-être besoin de quelques heures par semaine pour se préparer à accompagner ces élèves-là. Donc, d'avoir une cote, un diagnostic, ça permet de pouvoir voir ça. Donc, ça, c'est un aspect qui est purement administratif, qui est en train de se corriger actuellement. Et ça, c'est quelque chose de majeur que Jean-François a démarré et que M. Drainville est en train de poursuivre pour le moment. Le deuxième aspect, et ça, je me mets dans les bottes ou dans les baskets du professeur, quand on a 5, 6, 7 enfants qui se désorganisent de manière régulière dans la classe, c'est ingérable. Et une autre chose qu'on a observée, écoute, moi j'adore Égide Royer, c'est un homme qui pour moi est inspirant, et on est d'accord sur la plupart des sujets, sauf un, c'est la taille de la classe. Pour lui, d'avoir une grande classe, ce n'est pas un problème. Et je dirais que oui, il y a 30 ans, probablement que ça ne posait pas trop de problèmes d'avoir une classe, même à l'école primaire, de 25 à 30 élèves. Or, pendant la pandémie, Yannick, je reviens avec le tout premier retour à l'école que l'on a eu au mois de mai 2020, on avait les fameuses classes bulles de 10 élèves maximum. Okay? Donc, il n'y avait plus nécessairement de service organisé aux élèves parce que les orthopédagogues, les travailleurs sociaux, les éducatrices spécialisées étaient avec leur bulle puis enseignaient petit à petit aux élèves en fonction de ce que le professeur titulaire avait préparé. Et chose assez extraordinaire, c'est qu'on s'est rendu compte que même des élèves qui avaient 2 ans de retard en l'espace de 7 semaines de cours en fin d'année 2020, 2 ans de retard ont été rattrapés simplement parce que c'était un petit groupe avec un enseignant, d'accord, avec un adulte qui leur enseigne et qui est capable de créer un lien de sécurité, qui est capable de les accompagner beaucoup plus facilement et qui, avec son petit groupe, peut mieux s'adapter aux différences. Alors, tu vas me dire, ben oui, Joël, mais il y a une pénurie de profs. Je suis conscient, on est dans un cul-de-sac présentement, puis j'espère que ça va se résoudre dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Mais ça va faire partie de la solution aussi, c'est de réduire la taille des groupes classes. Actuellement, avec les normes que l'on a, c'est d'ajouter bien souvent une personne, soit du service de garde, soit une éducatrice, qui va venir aider le professeur. Comme ça, on se retrouve avec 2 adultes dans une classe. C'est une solution. Moi, je pense que c'est une solution transitoire plus qu'autre chose, mais ça fait partie peut-être éventuellement des solutions. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui ne va pas bien, ben sa manière d'exprimer qu'il ne va pas bien, ce n'est pas les mots, c'est ses gestes, c'est ses comportements. Donc, s'il y a une éducatrice spécialisée ou une personne du service de garde qui peut intervenir auprès de l'enfant qui ne va pas bien, ben ça va faire en sorte que toute la dynamique du groupe classe ne va pas, ou, en fait, va être moins affectée par l'élève qui va moins bien. D'accord? Et ça va permettre un enseignement beaucoup plus fluide dans la classe, qui donc c'est une manière en fait de pouvoir commencer à solutionner les choses. Mais ce qu'il y a quand même, c'est que, tu sais, quand on se centre sur les besoins des enfants, ça demande une individualisation du travail. Quand on se centre sur une tâche à faire et sur une efficience dans la productivité d'un élève, on se concentre sur des aspects techniques. D'accord? Et tous les enfants n'avancent pas au même rythme. Donc, tu as des enfants qui ralentissent parce qu'ils ont des difficultés, elles sont là, il faut en prendre soin. Tu as des enfants qui vont trop vite et qui finissent par perdre confiance en eux, ne serait-ce que parce qu'ils s'embêtent. Et à partir de ce moment-là, c'est pas évident d'être professeur.
Oui, c'est pas évident d'être professeur. Puis moi, j'ai vu les décennies avancer. Là. J'ai fait mes études au Québec. Dans les années 80, les professeurs étaient tough en tabarouette. Ils enduraient des choses dans les classes, des fois, que même nos propres parents n'auraient jamais enduré dans nos maisons. 90, j'étais encore aussi à l'école, mais je voyais qu'il y avait de plus en plus de gens qui étaient perturbés, entre guillemets, là, qui faisaient des choses qui n'avaient pas de bon sens, des discussions avec les enseignants, des manques de respect. Début 2000, les professeurs n'acceptaient plus ça et avec raison, puis il y en a de plus en plus qui décidaient de quitter la profession et de s'en aller. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en est rendu là aujourd'hui où il y a plus de professeurs qui sont malades ou qui quittent avant la retraite ou qui quittent pour la retraite puis qui ne veulent plus rien savoir de l'enseignement? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est rendu là? C'est où est-ce qu'on a erré, selon toi, au fil des années? Tu sais, je répète, là, des années 80, c'était 100 fois pire que ce qu'on vit là aujourd'hui. Il y avait de la violence qui était faite envers les professeurs, de la violence tout à fait inacceptable. Les professeurs criaient dans les classes et tout ça, puis tout ce monde-là restait quand même ensemble. Aujourd'hui, là, on se retrouve, il manque 8500 enseignants pour la rentrée scolaire qui débute dans quelques jours. Comment on va faire pour s'en sortir? Puis qu'est-ce qui fait qu'on en est rendu là, Joël? Est-ce qu'on est plus fragile aujourd'hui en tant qu'adulte envers nos enfants? Puis on se dit, ben, je pourrais peut-être avoir une meilleure vie en allant travailler au Walmart plutôt qu'avoir 20 élèves devant moi que je ne suis plus capable d'endurer. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, écoute, moi, ce que j'aurais envie de dire, il y a parfois des jeunes qui pensent qu'ils seront heureux comme professeurs. Et qui finalement, dans la réalité concrète de l'expérience professionnelle, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas à la bonne place. D'accord? Mais tu pourrais retrouver ça dans n'importe quelle profession. Et il y a une réorientation de carrière qui peut se faire. Puis si elle rend la personne heureuse, tant mieux pour elle. L'important, c'est qu'on fasse un travail, qu'on fasse une job qui nous rend heureux. Parce que si on est heureux, on va avoir une vie de famille beaucoup plus agréable. On sera capable de beaucoup plus gérer notre charge mentale et de mieux accompagner nos enfants comme parents. Donc, quelque part, il ne faut pas les blâmer. La deuxième chose, c'est que souvent, à cause des conventions collectives, on va mettre les jeunes professeurs avec des classes que personne ne voudrait avoir. En tout cas, les anciens se disent, écoute, moi, j'ai eu des classes tough il y a quelques années, j'ai plus le goût de me retrouver là-dedans. J'ai 10 ans, 15 ans d'expérience, mais j'ai le goût d'avoir une classe avec laquelle je vais me sentir bien, je vais pouvoir avancer à mon rythme, les élèves vont répondre à mes consignes et c'est louable d'un point de vue humain, donc loin de moi l'idée de lancer une critique par rapport à ça. Le problème, c'est que quand on est un jeune professeur et qu'on n'a pas assez d'expérience pour pouvoir gérer une dynamique de groupe, mais à ce moment-là, c'est certain que le burn-out va arriver assez rapidement. Et une des manières de gérer un burn-out ou un pré-burn-out, c'est de s'en aller. Okay?
Peut-être que dans les années 80, plutôt que de partir en burn-out, il s'auto-médicamentait avec de l'alcool le soir, puis il revenait à l'école le lendemain en espérant qu'il y ait une meilleure journée. Là. Ça se peut ça aussi. Là. Les gens avaient peut-être une autre façon de libérer le stress, puis aujourd'hui, ben, ça semble être de plus en plus difficile pour un professeur de libérer son stress. T'sais. Puis à titre d'exemple que je peux te donner, moi, j'ai un de mes plus jeunes qui a été turbulent dans l'autobus. Et là, moi, je lis le courriel, je suis un peu fâché, tu sais, mon enfant a été turbulent dans l'autobus, il fait la même affaire parfois dans ma voiture, je commence à lire et de ce que je comprends, c'est que mon gars, mon petit bébé de 7 ans, parlait à ses amis sur le banc à l'arrière. Donc, il était pas assis convenablement, c'était la deuxième ou la troisième fois qu'on l'avertissait, donc on l'a sorti de l'autobus pendant une semaine pour avoir jasé avec ses amis derrière. Tu sais quoi, c'est les règlements de l'autobus, il faut respecter ça en tant que parent. Le chauffeur a décidé que mon enfant n'allait pas prendre le transport scolaire pendant une semaine, bien ce sera ça, parce que mon gars savait qu'il ne devait pas être à genoux sur le banc pour parler avec ses amis derrière. Mais de voir que c'est rendu aussi sévère, tu sais, il y a beaucoup d'intolérance maintenant. Puis les professeurs de l'autre côté, bien, ils semblent être un peu plus fragiles que les professeurs qu'on avait dans le temps. Mais cela dit, tu sais, je ne suis pas enseignant. J'ai vu ce que c'était l'enseignement au primaire parce que je donnais quelques cours de vidéo. Puis j'ai tellement un grand respect pour les enseignants qui font ce métier-là. Ils le font avec amour. C'est une vocation. Mais de voir qu'il manque 8500 enseignants, je me dis, ça ne peut pas faire autrement que l'année prochaine, à pareille date, si on se fie aux années précédentes, là, ben, il va manquer 10 000 enseignants, il va manquer 12 000 enseignants, il va manquer 14 000 enseignants. Ça laisse craindre le pire. Puis des gens qui ne sont pas dûment formés pour l'enseignement, Joël, qui vont être auprès de nos enfants, t'sais, en tant qu'expert, toi, tu en penses quoi de ce que Bernard Drinville a dit? C'est que je vous promets un adulte dans chaque classe. C'est assez particulier. Moi, je m'attends à ce que la personne qui va être devant mon enfant pour y enseigner les mathématiques, bien, ce soit quelqu'un qui soit au minimum, qui a fait au minimum son bac en mathématiques.
Oui, mais on est dans une situation où on n'a pas trop le choix. Permets-moi, avant de répondre à ta question, de revenir sur l'histoire du bus.
Oui.
Imagine que le conducteur, quand il a mis une sanction à ton garçon, OK, que tu sembles, j'ai compris que tu avais décidé de backer le conducteur de bus.
Moi,
il y a un règlement, il faut le suivre.
Exact, je suis du côté du conducteur.
Pourquoi ça peut être dangereux? C'est que si, comme il n'y a pas de ceinture dans les autobus de l'école, des écoles, mm-hmm. en fait, si jamais il y a un tata qui fait niaiserie devant le chauffeur d'autobus, que le chauffeur d'autobus freine brusquement pour éviter un accrochage, ce frein-là fait en sorte que ton garçon risque de basculer en arrière. Et s'il va se taper la tête ou pire le cou sur le siège qui est normalement devant lui, tu risques peut-être de le retrouver à l'hôpital dans une condition que tu ne voudras pas avoir. Donc, quelque part, je peux comprendre que le professeur, que le conducteur soit très rigide par rapport à ça. Ce qui est dommage, c'est qu'en 92, quand les libéraux étaient encore au pouvoir, c'est juste avant que le PQ ne rentre, avec monsieur... avant M. Landry, qu'on ait le référendum, j'ai oublié son nom, je le vois physiquement. Enfin, bref, avant que le PQ ne rentre au pouvoir.
Parizeau.
D'accord. Comment? Parizeau, c'est ça, exactement. Merci. Donc, en fait, on avait eu une proposition de mettre un adulte, en fait, dans le bus, en plus du conducteur, et d'en profiter notamment pour, un peu comme avec les services de garde, des personnes qui pourraient faire quelques heures par jour de travail, notamment réinsertion sociale, retrouver un contact avec les jeunes et des choses pareilles, ce qui fait en sorte que ça pourrait tempérer les choses. Et malheureusement, il y a eu une levée de bois vert à ce moment-là. Il y a beaucoup de groupes sociaux qui se sont opposés à cette situation-là. Je pense qu'il y a peut-être eu aussi des enjeux syndicaux d'une manière ou d'une autre, mais toujours été que ça a été rejeté. Donc, ça veut dire que le conducteur doit non seulement conduire son bus, mais doit faire aussi une part de discipline. Tu ne peux pas faire les deux. C'est déjà avec nos enfants, c'est compliqué quand on a deux ou trois cocos en arrière qui se chamaillent. Alors, imaginez quand vous en avez 25-30 qui sortent de l'école, qui ont été comprimés pendant toute la journée pour respecter le code de vie. Il y a un moment donné où il faut, faut que ça sorte. Puis parfois, malheureusement, ça sort dans le bus.
J'ai eu une discussion avec mon gars. Mon gars trouvait ça beaucoup trop sévère. Puis j'ai dit, tu sais quoi, tu as le droit de trouver ça beaucoup trop sévère. Puis le chauffeur, lui, il a décidé qu'il te sortait de l'autobus pendant une semaine. C'est lui qui décide. C'est son autobus. Ouais, mais il dit, papa, il n'a pas raison de me sortir parce que je n'étais pas tout à fait. Je dis, tous les gens que tu vas rencontrer dans ta vie, ils ont le droit de se tromper. Mais c'est son autobus. C'est lui qui gère la sécurité. C'est ses règles à lui ou les règles de son employeur. Mais il a dit que tu avais fait ça. Il a le droit de se tromper. Tu es sorti pendant une semaine. Quand tu es chez papa, c'est les règlements à papa. Quand tu es chez maman, c'est les règlements à maman. Quand tu es à l'école, c'est les règlements de l'école. Puis ça, tu dois respecter ça. Je dis toujours, tu vas être libre de me dire qu'est-ce que tu en penses par la suite. Puis ça se peut que tu me fasses changer d'idée. Mais le chauffeur d'autobus t'a dit que c'était une semaine. Ce sera une semaine. Puis tu apprendras que maintenant, tu dois rester assis. C'est injuste. Tu sais, dans sa tête à lui, c'est injuste que je prenne pas sa part. Mais en même temps, j'ai donné une leçon de vie, Joël. C'est-à-dire que la personne, moi, en qui j'ai confiance, qui s'occupe de mon enfant, ben je juge qu'elle est assez intelligente pour être capable de donner des sanctions efficaces à mon enfant dans l'autobus. Tu sais. Puis ça, ben, une semaine de sortie parce que mon petit gars, il était un peu turbulent. C'était plate, c'était pénible pour les parents, tu vas me dire, parce que j'étais obligé d'aller le reconduire à l'école moi-même puis d'arriver un petit peu en retard à la job. Mais mon gars a compris. Aujourd'hui, j'en ai plus de plaintes là, quand il prend l'autobus. Là. Il a compris que le chauffeur d'autobus, ben, c'est lui qui mène.
Oui, et c'est ça que nous devrions faire comme parents quand un enseignant donne éventuellement une sanction, même si on n'est pas d'accord avec la sanction. Éventuellement, peut-être que le professeur a manqué d'informations avant de prendre sa sanction. Donc, une discussion d'adulte à adulte peut avoir lieu. Écoutez, j'ai pas compris la raison pour laquelle vous avez mis une sanction à mon enfant. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé pour que je puisse, moi, appuyer la décision que vous avez prise à l'école? Donc, moi, je souhaite que mon enfant respecte le code de vie de l'école. Donc, d'avoir une discussion d'adulte à adulte. Le problème dans certaines situations, c'est que certains parents se sentent blessés du fait que leur enfant a une sanction, puis ils la prennent personnelle et ils vont réagir d'une manière parfois qui est regrettable vis-à-vis de l'équipe école. Et c'est là qu'on se retrouve avec deux solitudes. D'un côté, les parents, de l'autre côté, l'équipe école. Puis les gens se parlent de moins en moins, malheureusement. Puis je dirais que les courriels n'arrangent pas toujours les choses parce que parfois, il y a des trop longs courriels, parce que parfois, on n'a pas le non-verbal aussi. Donc, on a perdu le contact humain entre les parents et les enseignants, entre les enseignants et les parents. Donc, je crois que si on veut que nos écoles aillent mieux, il va falloir recréer des communautés autour de nos écoles. C'est-à-dire que les gens se parlent, se voient, se fréquentent d'une manière ou d'une autre pour qu'il y ait un sentiment de confiance. Et si je connais mon enseignant, si je connais mes parents, ben à ce moment-là, je peux leur faire confiance. Si éventuellement j'ai un parent, mais non, je suis enseignant, j'ai un parent qui me fait un reflet ou un feedback qui peut-être éventuellement est dérangeant, mais que je connais le parent, ben je vais lui faire confiance au parent. Je dis, ah tiens, je vais me remettre en question. La même chose pour le parent. Si j'ai un lien de confiance avec l'enseignant parce que j'ai rencontré une vraie personne puis qu'il y a une confiance qui a émergé progressivement, eh bien à ce moment-là, je vais toujours avoir le réflexe de backer l'enseignant, même si mon enfant est frustré. Puis c'est correct que mon enfant soit frustré.
Exact.
Il est en train d'apprendre à gérer la frustration.
Ouais, puis d'apprendre que la vie n'est pas toujours juste. Hein. Il peut y avoir des injustices. Les gens qui sont responsables de l'autobus ont le droit de se tromper aussi. Mais si la personne a enfreint le règlement puis que la punition est sévère, ben tu vas t'en souvenir peut-être un peu plus longtemps. Puis moi, je savais que tu allais être un peu d'accord avec moi. C'est-à-dire, tu initie ton enfant aux injustices qu'il croit avoir en lui disant que ça se peut que ce soit ça, la vie. La vie n'est pas toujours juste. Papa, il n'a pas toujours raison. Ça se peut que papa se trompe. Toi aussi, tu te trompes. Fait que, tu sais, j'essaie de le plus possible d'inculquer ça très jeune à mes enfants. Puis jusqu'à maintenant, ça semble bien aller. Je pense pas être un parent si terrible que ça. Je pense que je m'améliore avec le temps en côtoyant des docteurs en neurosciences comme toi. Mais de voir qu'il y a des possibilités que mon enfant soit face à un adulte qui rend rempli de bonne volonté, mais qui a une formation qui n'est pas nécessairement dans le domaine qu'il va enseigner, Tu sais, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, l'enseignant en anglais parlait à peine anglais, Joël, puis on s'en rendait compte, là, tu sais. On s'en rendait compte qu'il y avait des difficultés, mais au moins, il y avait une formation en enseignement qui faisait en sorte que ce qu'il nous montrait, il était capable de nous le montrer. Il n'allait pas plus loin, mais il y avait une façon de nous montrer les choses, qu'on progressait quand même avec cet enseignant-là. Là, je me dis, quelqu'un qui, je sais pas, moi, quelqu'un qui a un secondaire 5 puis qui doit faire des sciences puis qui n'a jamais eu de cours de sciences nécessairement de sa vie, là, ça doit être complexe d'enseigner ça à des enfants de deuxième, troisième secondaire. Là.
Oui, mais c'est déjà complexe pour un professeur dûment formé.
Ouais.
Donc, imaginons pour quelqu'un qui n'a pas la formation. T'sais. Moi, ce que je vois beaucoup dans les interventions que je fais dans les écoles, c'est qu'il y a des enseignants qui ont un passé d'animateur de jeunes, qui ont été moniteurs de ski, qui ont travaillé dans des camps d'été. Et généralement, ces enseignants-là ont beaucoup plus de facilité à gérer le groupe classe parce qu'ils l'ont fait dans un espace ludique. Ils ont appris avec des groupes plus petits. Ils ont appris dans un environnement qui était moins orthonormé qu'une école. Et donc, quand ils se retrouvent dans une classe, eh bien, ils ont plus de facilité. Je ne dis pas que c'est parfait. Je dis juste qu'ils ont plus de facilité pour pouvoir gérer la dynamique de classe. Alors que un professeur qui n'a pas cette même expérience-là peut avoir plus de difficultés à s'adapter justement à la dynamique d'un groupe. Puis, il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'on est dans une période où, quand le Canadien ne performe pas, qui est en tort? C'est pas les joueurs. C'est le coach. C'est le coach qu'on va virer. Donc, on reproche bien souvent aux professeurs ou aux adultes les problèmes de dynamique de groupe. Et pour bien souvent, quand une équipe sportive ne fonctionne pas, ben c'est qu'il y a une ou deux têtes fortes dans le groupe qui sont payées à des millions de dollars, d'accord, qui vont prendre le contrôle du vestiaire et le coach, malheureusement, il va en payer les conséquences. D'accord? Puis malheureusement, c'est peut-être des modèles que l'on a un peu trop souvent. Il faut ramener le coach dans la classe puis ramener le fait que c'est à l'enseignant de prendre des décisions. Et je crois que si les parents essayent de créer un lien de confiance avec leur professeur, un lien dans lequel ils posent des questions, ils ont le droit de poser des questions. Tu sais, quand moi, à l'époque où j'enseignais, quand j'étais en Belgique, quand un parent venait me poser une question, ben, j'avais toujours beaucoup de respect pour la question qu'il me posait parce que je considérais que c'était un honneur d'avoir son enfant dans la classe. Et quand je pouvais arriver à discuter avec le parent pour comprendre comment lui percevait un certain nombre de choses, je pouvais éventuellement donner une explication si c'était nécessaire. Je pouvais me réajuster. D'accord? Mais le parent aussi pouvait se réajuster parce qu'il créait ce lien de confiance avec moi et il se rendait compte que mon intention, même si je faisais une gaffe, j'étais jeune enseignant, j'avais 22, 23 ans, d'accord? Même si je faisais une gaffe ou que je n'avais pas vu quelque chose que j'aurais dû voir ou que j'aurais pu voir, eh bien, il voit que mon intention, avant toute chose, c'était le bien de son enfant. Donc, automatiquement, ça changeait complètement la donne dans la dynamique de coup, dans le rapport entre l'enseignant que j'étais et les parents de mes élèves. Et je crois que c'est ce qu'on a vraiment perdu ces 20, 30 dernières années. Je crois qu'on, dans le monde éducatif, on s'est beaucoup trop, comparé au monde médical, d'accord, où on crée en fait une distance entre le client, qui est l'élève et le parent, et le spécialiste, qui est l'enseignant. Et ce fossé-là fait en sorte que ça va aller de moins en moins bien, parce qu'une école, c'est un lieu de vie avant toute chose. Le bureau du médecin, ce n'est pas un lieu de vie, c'est un lieu de maladie. Donc, le médecin est payé pour pouvoir détecter qu'est-ce qui ne va pas et éventuellement nous proposer un médicament. L'enseignant, il est combien d'heures, combien de jours avec nos enfants? 183, normalement. Donc, c'est un lieu de vie. Les écoles sont des lieux de vie. Donc, il y a un paquet de choses qui se passent là-bas.
Ouais.
D'accord? Et si on peut arriver à recréer des communautés autour des écoles par différentes activités organisées dans l'école, pas nécessairement par l'école, ça pourrait être par les villes aussi. D'accord? Et ça ferait en sorte que probablement, il y aurait beaucoup moins de tensions entre les deux solitudes qui sont le groupe école, l'équipe école et le groupe des parents ou les associations de parents sur le côté.
OK. On a parlé un petit peu tantôt de l'interdiction des cellulaires en classe. L'Ontario a débuté ça il y a de ça quelques années. Interdiction totale du cellulaire en classe. Là, le gouvernement du Québec dit « Nous, on ne passera pas un projet de loi là-dessus, mais ça va être une directive du ministère de l'Éducation comme quoi il y a une interdiction de cellulaire en classe, sauf pour des activités pédagogiques. » En discutant un peu avec des gens sur le terrain, je vais t'avouer que moi, j'ai changé d'idée parce qu'au départ, je me disais « Ben, tu sais, Joël, les cellulaires en classe, ça fait partie de notre vie, le cellulaire, puis l'enfant doit apprendre en classe à l'utiliser ou pas, son cellulaire, et l'enseignant doit faire respecter ses demandes. Puis quand j'ai regardé le sondage, Joël, le sondage qu'on a fait passer aux enseignants à savoir s'ils voulaient, oui ou non, conserver le cellulaire en classe, c'est 96 % des enseignants qui voulaient retirer le téléphone cellulaire de la classe. Fait que là, je me suis rendu compte que la vie n'était pas comme je pensais en classe, puis que le cellulaire était un véritable cancer dans une classe où il y a des étudiants puis des professeurs. Qu'est-ce qui fait en sorte que le cellulaire, nos jeunes sont pas capables de s'en départir, Joël?
Oh, il y a plusieurs choses. Écoute, j'ai eu l'occasion au printemps dernier d'aller animer des ateliers à des étudiants, des adolescents, d'accord, pour leur parler du cerveau et leur parler de ce qui aide leur cerveau à se développer et de ce qui peut éventuellement perturber. Et j'ai vu dans les différentes écoles du Nouveau-Brunswick différentes réactions de la part des enseignants. Il y a des enseignants qui disaient « téléphone interdit, je ne veux pas les voir ». Ils restent dans le fond de la classe et s'assurent que le téléphone ne soit pas sorti. Et d'autres écoles où on disait « ben écoutez, j'aimerais beaucoup que par respect pour le conférencier, vous n'utilisiez pas votre téléphone pendant qu'il est en train de prendre sa conférence ». OK? Bon, je dirais que dans le premier cas, c'est plus facile. J'ai pas à le gérer parce que le professeur l'a fait. Dans le deuxième cas, OK, ben j'avais donc des ados qui étaient en train de texter pendant que je donnais, en tout cas au début, ma conférence. Ouais, ça a duré 5 minutes, 10 minutes. Et là, j'ai vu que les étudiants rangeaient leur téléphone dans leur poche.
Oh.
Pourquoi? Parce que je les passionnais. Donc, un des premiers défis qu'on a comme enseignant, d'accord, c'est d'arriver à stimuler l'intérêt de nos élèves. Et ça, ça appartient à l'enseignant. On ne peut pas imaginer qu'on peut lire un cahier, qu'on peut lire un livre de notes et que les étudiants vont suivre l'information comme on aimerait qu'on puisse le faire. Donc là, il y a une partie pédagogique qui appartient au professeur, qui est comment est-ce que je peux susciter l'intérêt de mes étudiants. Premier élément. Le deuxième élément, c'est le jeune qui, lui, veut texter à ses amis, parce qu'on n'a pas tous notre récréation au même moment, d'accord? Parfois, il y a des fuseaux horaires qui sont différents. Mon fils, il converse avec des gens qui sont en Europe, en Grèce, en France, en Belgique. Il les a jamais rencontrés, mais les réseaux sociaux permettent d'ouvrir beaucoup, d'accord? J'ai un de mes anciens patients qui, lui, s'était créé des amis au Japon et avait même décidé d'apprendre le japonais. Wow. Parce que comme ça, il prenait des tutoriels de japonais et il conversait en japonais avec des gens qui vivaient donc à l'autre bout du monde. Donc, ce côté-là, qui est un des aspects positifs de nos réseaux sociaux et du chatting ou de Snapchat et tout ça, ça, c'est quelque chose qui est là. Le problème, c'est comment est-ce que je gère le moment où je ne peux pas converser avec mes amis? Et c'est ça qui devient. Et si je ratais quelque chose? Et si j'oubliais quelque chose? Et si je ne répondais pas assez vite? Et si je perdais le lien avec cet ami-là parce que je ne réponds pas assez vite? Et je te dirais, dans ma pratique clinique, d'accord, j'ai arrêté ma pratique clinique parce que je donne trop de formations, mais j'en ai fait pendant 20 ans. Et ça a été un des sujets les plus présents chez des papas. C'est-à-dire que leurs conjointes veulent pouvoir communiquer avec eux tout au long de la journée par texto. Et c'est une demande de relation, d'accord, qui est plus féminin que masculin et qui fait en sorte que j'ai le goût de te dire je t'aime, j'ai le goût de te demander comment tu vas, j'ai le goût de te demander comment, j'ai besoin que tu répondes parce que j'ai besoin de confirmer le lien d'attachement que j'ai avec toi. Donc, il y a des enjeux d'attachement qui sont là et qui touchent aussi les adultes.
Je vais faire écouter l'émission à ma blonde, je pense.
Mais c'est vraiment fou et c'est une des raisons pour lesquelles parfois on va utiliser le téléphone cellulaire en voiture parce que la pression qui est mise par l'autre, par notre partenaire de vie, et ça peut parfois être des hommes, on s'entend, il y a des hommes qui veulent aussi contrôler leur conjointe, ok, il va y avoir à ce moment-là une grande chose. Donc cette pression-là est mise sur l'adolescent qui lui ne veut pas manquer. On passe à un troisième niveau, d'accord? C'est le jeune qui ne va pas bien. C'est le jeune qui dit « Écoute, Martin, écoute, Juliette, moi, je pense que ma vie n'a plus de sens, je vais mettre fin à mes jours. » Et donc, à ce moment-là, on a le jeune qui a tellement peur que son ami ou son amie ne pose un geste terrible, d'accord, que l'idée même de ne pas être en communication avec cette personne-là est tellement folle que non, c'est pas possible, il faut que je communique avec, sinon elle va mourir et ce sera ma responsabilité si l'autre meurt. D'accord? L'autre ne fera peut-être pas une tentative de suicide, c'est peut-être juste un appel à l'aide, d'accord? Mais le jeune vit avec ce côté-là et a tellement peur de... Le quatrième élément, c'est, mettons que je suis en instance de séparation, je viens de me séparer de ma copine ou de mon copain dans la classe, d'accord? Puis je vois que ma copine ou mon copain sont dans une nouvelle situation d'amour avec quelqu'un d'autre, d'accord? Et là, à ce moment-là, je suis dans la classe et je suis coincé dans un triangle amoureux. Oups! Comment est-ce que je peux sortir de mon triangle amoureux? C'est que je prends mon cellulaire, parce que comme ça, mentalement, je suis ailleurs. Si j'ai l'impression si j'ai vécu de l'abus de la part de quelqu'un dans la classe parce qu'il y a eu de l'intimidation,
ouais.
Pardon, s'il y a eu de l'intimidation et que je veux communiquer avec mon meilleur ami ou ma meilleure amie, d'accord, pour lui dire que je ne vais pas bien parce que j'ai été bousculé dans les couloirs durant la période de récréation ou dans l'intercours. Donc là aussi, je vais vouloir communiquer parce que je ne me sens pas en sécurité dans ma classe sur le plan affectif, sur le plan physique, sur le plan mental. Si j'ai un professeur qui malheureusement ne m'apprécie pas, je vais peut-être avoir besoin de communiquer avec quelqu'un qui m'apprécie. Dernier élément, les parents. Écoute, il y a eu un sondage qui a été fait dans l'école où mon garçon est à l'école secondaire. Mes deux grands sont au cégep, donc la réalité est différente. Mais en fait, c'est les parents qui s'opposaient à l'idée que le cellulaire soit interdit dans la classe. Pourquoi? Parce qu'il y a certains parents qui souhaitent avoir un accès continu à leur enfant. Donc, ils ont besoin de savoir comment la journée a été. Ils ont besoin de leur envoyer un petit message d'amour. Tu sais, avant, on mettait un petit message dans la boîte à lunch, « Je pense à toi, bon courage ». C'est plein de petites attentions extraordinaires de la part du parent, d'accord? Donc, le parent qui veut souhaiter, qui veut dire qu'il est présent auprès de son enfant parce qu'il y a une évaluation tel jour et donc il veut le bien de son enfant. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de mal. Le seul problème, c'est que c'est un distracteur. Et que l'élève, au lieu d'être concentré sur le cours, va recevoir des pop-up. Et ces pop-up lui disent, ce sont les petits messages de tendresse de la part du parent, mais ça devient un distracteur. Parce que si on ouvre ça du parent, ben, il va y avoir Martin, Juliette, Angélique et tous les amis et amis qui vont justement vouloir communiquer. Donc, ce sont plein de distracteurs qui deviennent à ce moment-là des perturbateurs de la persévérance scolaire. Et donc, on a des élèves de moins en moins intéressés, de moins en moins présents, qui doivent faire un effort surhumain parfois. Parce que un des pièges des écrans de loisirs, d'accord, que ce soit vidéo, télévision ou chatting, c'est qu'on va libérer beaucoup de dopamine. Et quand on libère beaucoup de dopamine, ben c'est certain que ça nous pousse à refaire la même chose. Le meilleur exemple, c'est quand on fait l'amour, l'orgasme, une des hormones les plus libérées durant l'orgasme, c'est la dopamine qui nous dit « Hey, c'est donc ben bon ça !» OK? Et quelque part, c'est que ça nous pousse notre espèce à procréer. On s'entend qu'on peut le faire en dehors, heureusement. D'accord, mais toujours est-il que cette décharge de dopamine nous dit, ben continue, ça c'est agréable. Donc si on mange par exemple un chips, le chips, il y a du sel, il y a de la graisse, on est encodé à aller chercher un minimum de sel et de graisse pour pouvoir être en santé, il faut du bon sel et de la bonne graisse, on s'entend, mais toujours est-il qu'au moment où on met notre chips en bouche, il va y avoir une décharge de dopamine qui nous dit, ben continue, mange du sel, mange de la graisse. Le chips, il est dégueulasse, si on prenait vraiment le temps de le goûter, de le mâcher, on trouverait que ça n'a pas de goût, ce n'est pas bon. C'est à cause du sel et de la graisse qu'on va le manger. Mais notre cerveau est leurré. Et puis finalement, on va vouloir en manger plus, en plonger plus, en manger plus, parce qu'une fois qu'on a eu une décharge de dopamine, ben il faut consommer de plus en plus de chips pour avoir la même décharge. Ça va être la même chose avec le téléphone. Dès que je prends un texto, ça me décharge de la dopamine. Ça me dit, hey, continue, c'est quelque chose de bon pour toi, d'accord? Et donc, je veux un deuxième, j'en veux un troisième, j'en veux un quatrième, et je vais finir par regarder mon téléphone tout le cours au lieu de suivre le professeur. Et même si mon professeur est super intéressant, il n'arrivera probablement pas à dégager autant de dopamine que mon téléphone. Donc, il faut interdire le téléphone. Et je dirais même, à l'école, le téléphone n'a pas sa place. Ce n'est pas juste dans les classes. Il faudrait même, dans les cours de récréation, dans le, dans les intercours, il ne faudrait pas que nos jeunes soient avec un téléphone à l'intérieur des murs de l'école.
Ouais. Je sais pas c'est dans quel journal que j'ai vu ça ce matin, mais il y avait le témoignage d'un enseignant qui, lui, depuis déjà plusieurs années, interdisait à ses élèves le cellulaire en classe. Puis à chaque fin d'année, il passait des sondages, Joël, puis à ses élèves en disant « Bon, qu'est-ce que vous avez aimé cette année? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? » Puis des fois, il suggérait « Est-ce que vous avez aimé l'interdiction du cellulaire en classe? » Puis c'est des fois, on a comme des idées préconçues. Là. Quand j'ai vu la réponse, Joël, des étudiants, ils ont dit « Ben oui, c'est cool de ne pas avoir de cellulaire en classe parce qu'on peut se concentrer sur d'autres choses que notre cellulaire. » Mais bon, il y en a qui retrouvent une zone de confort dans le cellulaire là, quand ils sont dans des espaces publics. Dès qu'ils tombent sur leur cellulaire, il n'y a plus rien d'autre qui existe autour. Le stress disparaît puis ils regardent des vidéos de gens qui existent peut-être quelque part puis qui vivent leur vie, mais c'est pas la leur. Puis c'est leur petite zone de confort à eux, puis ils ressentent un confort. Mais moi, de voir la réponse des étudiants qui disent « Ben oui, merci beaucoup à l'enseignant de nous avoir retiré le cellulaire », j'avais une conception tout autre, tu sais. Puis c'est le fun de jaser des fois avec des gens qui sont directement sur le terrain. Hey, je voulais aborder avec toi...
Oui, puis tu sais, c'est un peu comme le code de la route. Si on ne met pas de code de la route, on va rouler n'importe comment.
Exact.
D'accord? Et c'est certain que dès que les policiers sont, par exemple, dans une période de grève, donc ils donnent moins de tickets, et automatiquement, on va voir beaucoup plus de comportements illicites sur la route. C'est naturel, c'est humain. Donc, tant qu'on ne met pas de limite à nos enfants, et il y a tellement une erreur, quand on parle de bienveillance, Dieu sait si moi, j'aime beaucoup parler de bienveillance, mais la bienveillance ne veut pas dire qu'on ne doit pas dire non à notre enfant. Au contraire, ne pas dire non et ne pas donner de limite à nos enfants, c'est une forme d'abus psychologique de nos enfants. C'est de la violence psychologique. Nos enfants ont besoin qu'on leur donne des limites. Et c'est ces limites, mais la manière dont je vais nommer mes limites, je peux le faire avec bienveillance. D'accord? Un peu comme on discutait tantôt avec le conducteur de bus, quand tu as interagi avec ton enfant, tu as été bienveillant envers ton enfant, mais tu lui as quand même rappelé les limites que le conducteur avait nommées et l'importance de respecter les limites que les adultes mettent.
Exactement. Je suis en train de regarder, je relis une chronique de Richard Martineau. Est-ce que tu as vu la chronique de Richard Martineau qui s'intitule « Nous vivons une crise de l'autorité » ?
Oui.
Est-ce que tu es d'accord avec tous ces propos ?
Ben, disons que Richard a souvent l'habitude de mettre beaucoup d'images, d'accord, pour forcer la réflexion ouais. des gens. Parfois, ça nous convient, parfois, ça nous convient moins. Ça dépend un petit peu quel point de vue on peut avoir à la base. Mais il reflète, en fait, des problèmes de société. Et oui, nous avons un problème de société actuellement. Quand tantôt, je parlais de la charge mentale que les parents ont à gérer actuellement, c'est certain que quand ils rentrent à la maison, ils veulent la sainte paix. Ils n'en peuvent plus, d'accord? Surtout que, écoute, je ne sais pas si c'est en train d'arriver au Québec, je ne pense pas, mais en Europe, on parle de plus en plus du droit à la déconnexion. La possibilité de ne plus répondre à un courriel professionnel à partir d'une certaine heure.
Ouais.
Donc, le télétravail, le fait qu'on a des téléphones intelligents, on a parfois des managers, on a parfois des collègues, on a parfois des clients qui nous écrivent à toute heure du jour et de la nuit, d'accord? Puis les réseaux sociaux, ben, t'en connais quelque chose, on les anime, d'accord? Parce que quelque part, toi et moi, on est des personnalités publiques, donc on va jouer un petit peu à interagir avec les gens, donc on le choisit. Le problème, c'est quand on ne le choisit pas. Si je le choisis, je peux dire à un moment donné, j'arrête. Si je ne le choisis pas parce que c'est mon patron, mon collègue ou mes clients qui sont en train de vouloir interagir avec moi, c'est certain que c'est compliqué. Donc, il y a cette charge mentale professionnelle qui se transpose de plus en plus à la maison. Et donc, la disponibilité affective du parent à faire son rôle de parent à la maison est de plus en plus compliquée. Avant, on avait des papa de fin de semaine, c'est-à-dire qu'on l'enfant dans une famille divorcée voyait son père une fois toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, une fois par mois même parfois. Il y avait même une chanson très intéressante dans les années 90 sur le papa de fin de semaine, je ne me souviens plus, c'est une des chansons que j'avais beaucoup aimée à l'époque où je suis arrivé au Québec dans les années 90, mais c'était une norme. Aujourd'hui, les pères et les mères essayent dans la mesure du possible d'assumer de part et d'autre, d'accord, leur tâche parentale, d'accord? Quelque part, c'est une bonne chose. L'aspect problématique, d'accord, c'est que si je n'ai pas vu mes enfants pendant une semaine, est-ce que j'ai le goût d'avoir de la dispute? Est-ce que j'ai le goût de faire des luttes de pouvoir avec eux pour qu'ils respectent le code de vie de ma maison? Est-ce que j'ai le goût d'être plus sévère que l'autre parent, notamment dans la gestion des écrans? Si tu savais dans ma carrière clinique le nombre de fois que j'ai vu des jeunes, des adolescents préférer le parent le plus laxiste en termes d'accès aux écrans, et donc ils vont renoncer à aller auprès du parent sévère pour aller vers le parent le plus laxiste parce que ça leur permet d'avoir plus d'accès en termes de sortie, en termes d'usage de drogue, parfois en termes d'alcool, parfois en termes d'usage d'écran. Donc, le réflexe de privilégier le parent laxiste est malheureusement un réflexe tout à fait normal, mais qui peut amener justement le parent à avoir de la difficulté à vouloir mettre des limites parce qu'il sait très bien que son jeune va peut-être plus vouloir venir le voir. Il ne viendra peut-être plus passer une semaine chez lui comme il le souhaitait. D'accord? Donc, ça amène aussi des difficultés. L'autre chose, c'est qu'on manque aussi, je crois, de modèles d'autorité qui sont sains. On est en train de défigurer la fonction d'enseignant. On en parlait tantôt. Regarde dans la presse à quel point on parle mal des policiers. Puis moi, j'ai la chance de faire des projets avec les policiers à Montréal, qui est vraiment génial. Mais ce sont de super de bonnes personnes. Ouais. D'accord? Mais regarde ce qu'on va dire d'eux dans la presse. Mm-hmm. On vient même de fermer une piscine à Montréal parce que la police et la ville n'étaient plus capables de garder le contrôle de la sécurité autour de la piscine parce que des gangs de rue venaient. Il y a des jeunes qui vont provoquer. Je dis des jeunes, ça peut être des jeunes adultes qui vont provoquer la police, qui vont provoquer les autorités, qui vont filmer, bien entendu, uniquement la partie qui les arrange. Et donc, à ce moment-là, le policier peut faire de plus en plus mal son travail. Puis on s'étonne qu'il va se mettre au bord des routes pour nous donner des tickets. Mais bien souvent, c'est parce que là, au moins, on va moins critiquer. Tu sais. On peut comprendre que pour sa santé, c'est peut-être mieux. Ouais. En plus, c'est une bonne chose pour le respect du code de la route. Mais ça reste quand même qu'il n'y a plus de modèle d'autorité. Regarde comment on critique les ministres à tort et à travers. Quelle que soit l'idée que le ministre peut dire ou pas dire, regarde le tollé que ça peut faire. Tu sais, regarde le tram, le troisième lien et tous les grands dossiers de Québec, à quel point la manière dont on parle des dirigeants. D'accord, je ne dis pas que le dirigeant a raison dans sa manière de gérer un défi, ouais, ou de gérer un problème de société ou un enjeu comme celui du tram ou du troisième lien, mais le fait qu'il n'y ait plus de modèle d'autorité qui soit sain, les parents, les jeunes parents peuvent avoir des difficultés à trouver des modèles. Comment est-ce que je peux être un parent qui est une personne autoritaire, mais profondément respectueuse de mon enfant et accepter aussi que mon enfant, pendant 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 5 jours, soit furieux contre moi parce que je lui ai dit non?
Oui. La chanson que tu parlais tout à l'heure, effectivement, c'était le bon titre, « Le papa de fin de semaine », puis c'est Richard Séguin qui chantait ça. Donc, oui, puis j'ai lu le texte, puis effectivement, je pense que je vais aller le relire deux ou trois fois, ça a de l'air. Puis l'écouter aussi, j'avais jamais entendu cette chanson-là. Ce que Richard Martineau dit, c'est qu'on est à l'ère des micro-agressions. Hein? Nos amis, nos blondes, nos chums nous jasent souvent de choses qu'ils se font faire par leurs collègues de travail, par les patrons, par les enseignants, par quelqu'un qui est en position d'autorité. Puis ces gens-là se sentent constamment micro-agressés à chaque fois, alors que non, il y a des directives à suivre. Il y a des choses à faire dans une entreprise. Si ton patron te dit de rentrer à 8 heures, puis tu rentres à 8h10, ça ne fonctionne pas. Et c'est pas parce qu'il te dit que tu es 10 minutes en retard qu'il te micro-agresse. C'est comme s'il fallait toujours faire attention à ce qu'on dit en 2023. Les gens sont un peu plus fragiles. Puis nos enfants sont un peu plus fragiles aussi.
Mais écoute, je te dirais deux choses. Je crois que prendre conscience de la manière dont on communique avec une autre personne, c'est quelque chose d'important. Autrement dit, si toi et moi, on a une discussion hors micro et que je dis quelque chose qui te bouscule ou qui te fait de la peine et que toi, tu viens de me le dire, « Hey, wow, Joël, quand tu me dis ça, ben je me sens pas bien, tu sais, ça m'a fait de la peine puis je n'avais pas envie de recevoir ça. » Quelque part, pour moi, d'accord, ben, ça me permet de me rendre compte que, oh, au-delà de mon intention qui est de communiquer avec toi, je t'ai fait de la peine, puis je n'ai pas envie de te faire de la peine. Donc, à la base, ça peut nous amener vers une communication non violente. Et l'échange en lui-même est quelque chose de très important. Et peut-être que ça va amener une société qui sera beaucoup plus saine à terme. Le problème, c'est qu'on est une société narcissique. On définit souvent le narcissisme comme étant le côté flamboyant de la personne. Mais il y a une forme de narcissisme qui est tout autant important, qui est le narcissisme de la victime, de l'éternelle victime. On est tous soumis à ça parce qu'on a des relations bien souvent qui nous coincent dans une dyade victime-bourreau. Il y a d'ailleurs Guy Corneau qui avait écrit un livre « Victime des autres, bourreau de soi-même ». D'accord? Donc, en fait, notre côté narcissique, parce que notre image, elle est affectée, parce que la manière dont on nous considère, la manière dont on nous parle et tout ça, et ce sont des réactions narcissiques. On a tous des enjeux narcissiques, on a tous envie d'être aimé, on a tous envie d'être respecté, on a tous envie d'être admiré, mais parfois, on remet dans les bras de l'autre personne des choses qui nous appartiennent. Et c'est ça le problème là-dedans. C'est-à-dire que si j'utilise un mot dans une classe ou dans une conférence qui blesse quelqu'un, ben, je suis capable de pouvoir dire « Hey, je suis désolé, j'ai vu que ça t'avait bousculé, je te prie de m'excuser si jamais ça a été trop fort. » Je ne suis pas responsable de la blessure de l'autre, je suis responsable de ce que je dis et de comment je le dis. Mais l'autre est responsable de comment il le ressent. Ouais. Et c'est à l'autre de dire, écoute Joël, quand tu nommes ça ou quand tu expliques ça comme ça, moi, je ne me sens pas bien là-dedans. Ça ne veut pas dire que, tu sais, mettons, si je dis que la Terre est ronde et que la personne croit que la Terre est plate, je ne pourrais pas changer quoi que ce soit. La Terre, elle est ronde et elle tourne autour du Soleil, même si l'autre personne croit qu'elle est plate. D'accord? Mais ça reste quand même que je peux ne pas me moquer de ceux qui croient que la Terre est plate. Et c'est l'aspect de la moquerie qui devient problématique. Ça, c'est une micro-agression.
Oui, mais t'es plus fort que moi. Moi, quand quelqu'un me dit que la Terre est plate, j'ai un petit peu de difficulté à retenir mes propos. Joël Monzé, docteur en neurosciences, c'est toujours un plaisir de te jaser. Pour les gens qui veulent avoir accès à tes interventions, à tes conférences, tes livres aussi, t'as écrit plusieurs livres, on peut te retrouver de quelle façon?
En fait, il y a deux manières les plus simples. C'est en fait joelmonzé.com. D'accord? Où là, vous allez avoir accès justement à mes livres et différentes choses. Sinon, le mieux, c'est peut-être cerveau et psychologie.com, où là, vous avez beaucoup d'informations, notamment des activités virtuelles, des visioconférences, des formations que vous pouvez prendre quand vous le souhaitez pour mieux comprendre le cerveau, mieux comprendre la persévérance scolaire, avoir des outils aussi pour savoir comment guider vos jeunes avec les écrans. J'ai une formation qui s'appelle Le combat des chefs. Et puis, voilà. Puis, ceux qui veulent, par exemple, écouter mes visioconférences en rediffusion, vous pouvez utiliser le code rentrée 2023 et vous avez une réduction de $20, ce qui veut dire que la plupart des formations de visioconférences en rediffusion sont disponibles entre 3 et 8 $ pour quelques jours, donc profitez-en.
Ah, très cool. Est-ce que tu es de passage à Québec prochainement?
Présentement, non. Probablement que dans le courant de l'automne, je vais le faire, mais actuellement, je donne beaucoup de formations dans le réseau public, ouais. Que ce soit pour la santé publique ou le CI3S ou les écoles. Donc, ce n'est pas des formations que je donne au grand public, mais c'est pour ça que je donnais comme référence en fait mon site cerveau-et-psychologie.com.
Ben, quand tu passeras à Québec, tu viendras nous jaser en studio, cher ami.
Ah, avec grand plaisir.
Joël Monzé, merci.
Marceau, le soir.
Chez Sport Expert et Atmosphère, c'est la grande liquidation de fin de saison. Profitez de 30 à 50 % de rabais sur une vaste sélection de vêtements et de chaussures. Détails en magasin.
Les fêtes gourmandes de Neuville, la recette parfaite pour un week-end rempli de saveurs et de plaisir. Du 24 au 27 août, voyez en spectacle Grégory Charles, Sarah Dufour, Sal Barbe, Brittany Kennell et Matt Lang. Plus de 40 exposants, dégustation de produits du terroir, cuisine de rue, microbrasserie et activités familiales sur place. Ne manquez pas l'événement gourmand incontournable de l'été. Les fêtes gourmandes de Neuville, une présentation de la ville de Neuville et Desjardins. Billets en vente au fgdm.ca. Le Collège François de Laval, c'est LE milieu de vie pour s'épanouir. Visitez-nous lors de nos journées portes ouvertes les 16 septembre et 17 septembre prochains. Au CFDL, vos jeunes peuvent choisir parmi une foule d'options stimulantes dès le premier cycle du secondaire afin de développer leur passion. Nouvelle option Athlète Plus, sciences et robotique, arts, en plus d'un programme enrichi en anglais. Réservez votre place aux portes ouvertes du 16 ou du 17 septembre au collègefdl.ca. Au Collège François de Laval, deviens qui tu veux, rien de moins. On sait que peinturer l'intérieur d'une maison, c'est pas toujours facile.
Chérie, On avait dit que le rose allait dans la chambre du bébé, hein, pas dans le salon.
Chez Peinture Résidentielle Québec, peindre, c'est notre métier. Faites confiance à nos experts formés et offrant un service de préparation minutieux, le nettoyage après travaux et une garantie de satisfaction. Vous résidez dans la ville de Québec ou ses alentours? Transformez votre demeure avec Peinture Résidentielle Québec, membre de l'APCHQ. Estimation gratuite, peinturerésidentielleqc.com.
Roulez en toute sécurité avec la qualité de la traction intégrale ou de la super traction intégrale de Mitsubishi. Rendez-vous chez Sainte-Foy Mitsubishi et Québec Mitsubishi pour essayer nos véhicules hybrides ou à essence disponibles pour livraison rapide. Découvrez l'ultime définition de contrôle, le pouvoir de diriger avec précision son véhicule, quelles que soient les conditions routières. Mitsubishi, toujours la meilleure garantie de l'industrie sur 10 ans ou 160 000 km sur le groupe motopropulseur. Sainte-Foy Mitsubishi sur la rue Einstein et Québec Mitsubishi sur Pierre-Bertrand.
Maman, papa, je vous suggère humblement d'économiser de l'argent et de magasiner sur Amazon pour la rentrée. C'est ma croissance. Je grandis à une vitesse alarmante. Et les vêtements que vous allez m'acheter cette année vont être bientôt trop petits. En plus, ce que j'aime aujourd'hui va être démodé demain. Mais au moins, votre portefeuille ne sera pas victime de mon sens de la mode. Si vous achetez à bas prix pour la rentrée sur Amazon, j'espère que ça va vous aider. Amazon, dépensez moins, souriez plus.
Boulevard 102.1, vous êtes chez vous.
Bien à la maison, hein?
Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Alors voilà, voilà, c'est tout pour moi en ce vendredi. À tous, un bon début de week-end. J'espère que vous avez apprécié la dernière heure en compagnie de Joël Monzé, docteur en neurosciences. Actuellement sur Québec, on est autour de 12-13 degrés, de ce que je comprends, là. Des averses tout au long de la soirée, c'est ce qu'on nous mentionne. Minimum de 15 degrés. Pour ce qui est de demain samedi, on nous dit que ce sera quelques averses tard en après-midi. Donc, on passe la tondeuse demain matin, les boys. 10 heures, pas avant. Maximum de 22 pour ce qui est de demain. Avec l'humidex, ça pourrait être une température ressentie de 27. Mais comme je vous dis, il y aura de la pluie en soirée. Minimum de 14 degrés. Dimanche, un ciel dégagé, maximum de 22. Et à plus long terme, lundi 28 août, ce sera ensoleillé avec un maximum de 23 degrés. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer un beau week-end. Puis on se rejase lundi à 11h. Ciao.
Marceau, le soir.
Chez Sport Expert et Atmosphère, c'est la grande liquidation de fin de saison. Profitez de 30 à 50 % de rabais sur une vaste sélection de vêtements et de chaussures. Détails en magasin.
Pour rouler, ma business roule. On est dans le jus solide. Les clients n'arrêtent pas de rentrer. C'est 24 sur 24. L'équipe, elle, brûlée ben raide. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mon modèle d'affaires, c'est rien faire.
Ridicule, hein? Ben, c'est exactement l'attitude du gouvernement envers nous, les professionnels en soins du réseau de la santé. Ridicule comme ces offres pour bonifier nos conditions de travail. Bref, va falloir encore tout donner pendant que le boss nous donne rien. À un moment donné, il y a des limites. Un message de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec.
Pour un temps limité seulement, découvrez le maquis California épicé dans les restaurants Yuzu. Un délicieux classique revisité dont vous brûlez d'envie. Commandez en ligne au yuzu.ca ou via l'app Yuzu et ajoutez du piquant dans votre commande. Yuzu, c'est toujours bon.
Veuillez regardez-moi donc la vedette chez IGA.
Bon, vous m'avez reconnu. Normalement, je donne pas d'autographe, mais...
Non, c'est que...
Non, faites pas votre gêner.
Non, vraiment, j'ai aucune idée qui vous êtes. Mais les produits du Québec dans votre panier, ça, c'est des vraies vedettes.
Jusqu'au 30 août, le Québec est en vedette chez IGA. À l'achat de deux paniers de légumes de récolte de 1,5 litres, obtenez 500 points 5 plus. 500 points, c'est 5 $ d'épicerie gratuite chez IGA.
Ça va récolter des prix.
5 plus chez IGA. Détails dans les magasins participants.
Pour joindre la gang en ondes par téléphone 780-1021, texto 971-1021.
Boulevard 102.1.
Vous portez des lunettes? Profitez de l'événement monture à 23 $ chez Gresh et Scaff. Une incroyable variété de 20 000 montures, toutes réduites à 23 $ chacune. Monture à 23 $ à l'achat de la paire complète. Jacinthe Laurendeau, opticienne. Prenez rendez-vous ou apportez votre prescription chez Gresh et Scaff.
Vivez pleinement votre été avec le nouveau Kia Seltos. Chaque modèle est bien équipé de caractéristiques de sécurité de pointe, comme l'assistance d'évitement de collision dans les angles morts. Vous pouvez ainsi compter sur une assistance de tous les instants et rouler en toute sécurité pendant chacun de vos déplacements. Optez pour les véhicules qui vous permettent de combiner aventure et sécurité. Achetez votre Kia Seltos 2024 chez votre concessionnaire. Visitez kia.ca pour plus de détails. Kia.
Du mouvement vient l'inspiration.
Boulevard 102, c'est votre radio rock. Merci d'être là.
Notre ADN du rock.
On est de plus en plus nombreux à avoir du fun.
Ben, parce que vous êtes les meilleurs au monde.
J'adore 102!
Il
n'y
a rien de mieux que 102-1 et son équipe de fou.
102-1.
Parce que vous êtes la meilleure radio au monde!
Boulevard 102-1.
102-1.
Boulevard 102-1. Bienvenue chez vous. C'est l'heure d'aller coucher les enfants.
Coucher les enfants.
Le bonhomme débarque avec sa musique du diable.
This is the Prince of Darkness.
Voici le bonhomme 7 heures, Matt Marcotte.
Bon vendredi, bienvenue dans le bonhomme 7 heures à Boulevard 102.1. Merci beaucoup de nous faire confiance, merci d'être là. Mon nom est Mathieu Marcotte. Très content de pouvoir vous offrir les 7 plus grosses tunes de la semaine. Le 7 de 7. Des chansons qui font réagir sur le blvd.fm. Vous allez sur notre site web, vous dites ce que vous pensez des nouveautés en mettant des pouces en l'air, pouces par en bas. Pouces par en bas, là, s'il y en a beaucoup, ces chansons-là se retrouveront pas dans le bonhomme 7 heures dans le 7 de 7. Mais s'il y a beaucoup de pouces par en haut, et c'est également possible de le faire via l'application, ben il y a des chansons qui vont faire leur entrée. Il y a un artiste qu'on connaît bien pour ses multiples projets qui fait son entrée en 6e position. Corey Taylor sera là avec Beyond. Mais juste avant, c'est les Smashing Pumpkins, Spellbinding, numéro 7 ce soir.
Le 7 de 7, nos 7 plus grosses tunes de l'antenne. Numéro 7.
Boulevard 102.1.
Numéro 6.
It's only my heart that you
taking. But you're so alive, it's amazing. Before we begin, I wanna make it go on and on and on. It's all in my hate that you're killing. Cause you're so alive, it's thrilling. I wanna succumb. For you.
Les 7 meilleures chansons selon vos votes au BLVD.fm. Numéro 5.